audité notamment, ça n'a rien à voir. Lyon peut se permettre d'avoir deux opéras, à Poitiers c'est un rêve. Je veux dire par là qu'il y a des effets d'échelle, des effets de taille, qui font qu'on ne pourra jamais, il faut comparer toutes choses égales par ailleurs, et qu'à cet égard il y a un effet de seuil extrêmement important. Donc je serais très très prudent, il me semble qu'il faut être très très prudent dans cette approche. Elle est passionnante, hein, du reste, merci beaucoup, mais prudence par rapport à des velléités de vouloir modéliser des développements de petites villes ou de villes moyennes par rapport à ces informations. Voilà, c'est ma réflexion principale, je ne vais pas la détailler plus que ça parce que je serai un petit peu barbant moi aussi.
Moi aussi, comme
il me semble que l'approche, et je comprends bien, je termine avec ça, qu'effectivement je comprends bien en même temps que d'un point de vue traitement statistique de l'information, c'est plus intéressant, plus pertinent, plus significatif de travailler sur des grands chiffres que de travailler sur une multitude de petits chiffres. Mais cependant, un peu, et je termine avec ça maintenant, définitivement, de la même façon que il me semble aussi très audacieux de dire il y a une dichotomie entre le voiture et le non-voiture, pour moi il y a la voiture et des tas d'autres solutions. Ce sont des problèmes complexes, donc on ne trouvera pas une solution à caractère dichotomique. Vous voyez ce que je veux dire? Et il me semble que pour la modélisation de la cité de demain, on ne peut pas être non plus dans un modèle dichotomique, en disant « je veux me rapprocher du modèle idéal ». Voilà, j'ai fini, excusez-moi.
Dans la bouche d'un mathématicien, cette idée-là prend tout son poids. Hein. Voilà. Sur Lyon, vous aviez pris la peine, Julien, de rappeler que si Lyon suscitait un tel attrait de par sa taille humaine, c'était précisément que de toutes les métropoles étudiées, c'était la plus petite. Mais, réponse
ouais. Sur les chiffres, vous avez, ça fait démago, hein, mais vous avez absolument raison dans votre critique de cette enquête d'opinion sur 14 grandes villes aussi hétérogènes que celles qui ont été retenues, sachant que Lyon, en termes de taille, n'a strictement aucun rapport avec les autres. Elle a été choisie parce que Veolia veut démarcher là-bas. Voilà, ok.
C'est bien de le préciser.
Oui, mais ceci étant dit... les enquêtes d'opinion ne sont qu'un des éléments sur lesquels je me suis appuyé là, et c'est pas pour moi ce qui est en réalité le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est l'ensemble des chiffres massifs qui prêtent autant à discussion de par la qualité de l'appareil statistique qui les recense. Encore une fois, quand on nous dit que le pays le moins urbanisé du monde, c'est le Cambodge, la taille de la population du Cambodge, ses évolutions récentes, liés à des drames qui ont ponctué son histoire au cours du XXe siècle, fait qu'en réalité, on n'en sait pas grand-chose. Enfin, mais mon propos général, c'est de dire précaution avec les chiffres, mais maintenant, quand ils sont là, ne les mettons pas trop de côté. Sur le Japon, vous avez parfaitement raison, parce que le Japon, c'est un truc assez génial, à plein de titres, c'est que c'est un formidable laboratoire de l'urbanisation passé et sur une très faible part du territoire, car c'est un archipel d'îles, le Japon, île volcanique, et donc les grandes villes gigantesques, puisque la plus grande ville du monde, c'est Tokyo, qui est devenue la plus grande ville du monde et qui continue à l'être en avalant sa périphérie, en avalant ses diverses périphéries. C'est un laboratoire du mode de vie urbain que l'on peut célébrer quand on est content de pouvoir dépasser le stress que l'on y vit et que l'on peut exécrer. Et un témoignage de cette exécration du mode de vie japonais, c'est pas l'opinion qu'ont les habitants de Tokyo de leur ville, c'est simplement le fait que les habitants de Tokyo disparaissent. Démographiquement, le Japon est un laboratoire de l'urbanisation et du vieillissement. Hein. D'ici 2050, il y a 30 millions de Japonais en moins qui, parce qu'en plus de ça, ils ne veulent pas avoir recours à l'immigration, robotisent bien au-delà du gadget. Hein, on a toujours l'impression que l'apparition des robots domestiques, par robots domestiques, j'entends des nounous pour enfants et des robots pour accompagner les personnes âgées plus ou moins dépendantes, c'est un phénomène massif dans la ville japonaise. Par la ville japonaise, j'entends la vie japonaise, car il n'y a pas grand-chose d'urbain. Sur les dichotomies voiture-non-voiture, je suis d'accord. Le problème, c'est quand on pose des questions, on est toujours obligé de réduire, mais au sens culinaire, hein, la complexité. Et il n'y a rien de mieux qu'une bonne dichotomie. Hein. Là-dessus, c'est oui, non, mais alors bon, je suis d'accord, on en fait plusieurs. Est-ce que vous pensez que les transports collectifs sont plus vertueux que les transports individuels? Enfin, mais je sais que ça c'est simpliste. Mais moi je préfère dans la formulation des questions des choses simples qui peuvent être jugées comme simplistes plutôt que des choses complexes qui deviennent incompréhensibles. Mais si on avait fait, et si on fait des enquêtes sérieuses sur la mobilité, évidemment on passe par des solutions dont parfois on n'a pas idée, comme par exemple des télésièges dans Paris, comme dépassement, comme franchissement de la Seine. Mais pourquoi pas? C'est pas si idiot que cela. Si c'est sécurisé, bien sûr, et si... Quoi? Grenoble, il y a des petits téléphériques, tout ça, hein, mais c'est très bien. Ouais. Mais donc, en effet, c'est ni voiture, ni bus. Hein. Sur 1950, 2002, 2007, il y a des tendances sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire, assurément. Il y en a d'autres pour lesquelles il y a des choses massives à analyser, à prononcer sur les évolutions de la population urbaine. Mais je voulais en revenir à un chiffre qui m'est venu à l'esprit dans les différentes questions, puisque vous avez parlé, oui, des critères d'indignité du logement en France, qui sont des critères désormais établis par le droit. Alors, si on prend pas ces critères exactement, mais si on prend des statistiques européennes, c'est sur la part des logements qui en France sont dépourvus de WC et de douche. On est à moins de 2% désormais, quand on était à 40% simplement encore en 1965. Vous prenez la Roumanie, qui est un pays membre de l'Union européenne, on est à 50%. Donc, d'une façon française, le regard sur le bidonville, c'est la moitié de la Roumanie, quoi, voilà. Enfin, en tout cas, c'est la moitié du logement roumain.
Une question, monsieur ? Première arrivée, Virginie.
Oui, bonsoir Philippe Ringuet. Alors vous êtes le deuxième géographe que j'entends, Philippe Ringuet. Voilà. Non, pas du tout, non. Membre du conseil de développement responsable. Non, mais vous êtes le deuxième géographe que j'entends, sociologue, excusez-moi. Décidément.
Voilà, c'est pas grave.
Enfin bon, ouais. Enfin, la deuxième personne que j'entends, donc comme ça, ça va être plus simple, que j'entends parler d'avoir des courbes d'ascension démographique au niveau mondial quasiment rectiligne, enfin qui progressent à une vitesse un peu vertigineuse. Alors moi, j'aurais pensé que dans les pays qui s'industrialisaient, il y avait une baisse de la natalité, et donc je pensais qu'à un moment on allait atteindre un seuil plancher, en fait une espèce de régulation. Donc voilà. Et puis d'un autre part, c'était aussi d'avoir la disponibilité des chiffres, et ne serait-ce qu'en France. Donc à première vue, vous avez un peu de mal à obtenir les chiffres sur les bidonvilles ou les choses comme ça. Et je voulais savoir si les critères ne changent pas un peu comme dans l'eau, c'est-à-dire que les taux de nitrate, à un moment, c'est ça, et puis après on dit ça devient dangereux à partir de là et ça monte. Donc je voulais savoir s'il n'y avait pas des échelles de rattrapage un peu fictives, et si en fait c'était pas un tabou de dire que dans les sociétés industrialisées, en fait, il y avait du bidonville et qu'on avait beaucoup de mal à parler de ça.
Ça fait plusieurs questions.
Ça en fait deux. Sur les bidonvilles dans les pays riches, en particulier en France, c'est un terme que l'on n'emploie plus, que l'on a beaucoup employé lorsqu'on cherchait justement en phase finale d'urbanisation et de fin de la révolution industrielle, fin des Trente Glorieuses, à résorber totalement. On ne l'emploie plus juridiquement, mais il est employé pour dire oui, il y a un retour des bidonvilles. Et c'est surtout employé pour désigner les campements à la périphérie des villes ou des friches ferroviaires. Donc on l'emploie. Alors, sur la taille de ces bidonvilles, sur le nombre de personnes qui vivent dans ces situations, je serais bien incapable de vous dire quoi que ce soit de fondé pour la France, pour l'Europe. Et c'est paradoxal, parce que je suis capable de vous dire, bon, à la grande louche de la statistique mondiale, voici les centaines de millions de personnes qui sont concernées à l'échelle internationale dans les pays en développement. Pourquoi? Parce que ça reste un problème marginal en France, qui, s'il est en extension, est tout de même bien pris en compte par les politiques publiques, insuffisamment, incorrectement. La preuve en est que la situation peut se détériorer. Mais c'est une préoccupation de politique publique. Qu'on apprécie ou non les différents acteurs politiques qui ont été à la tête des ministères du Logement et des Affaires Sociales, ils ont tous tenté un schmilblick quelconque depuis une vingtaine ou une trentaine d'années pour s'en préoccuper. Donc, je ne pense pas que ce soit, vous disiez, un mythe, hein, mais un... Hein, un tabou. Pas du tout. Je pense juste que voilà, c'est marginal à l'échelle mondiale, mais c'est fondamental à l'échelle nationale, pas nécessairement avec les mêmes mots, ce qui amène à la question des critères. C'est vrai que tout est affaire de critères, et que si on prend par exemple les seuils de pauvreté qui sont un autre sujet, les seuils de la pauvreté à l'échelle mondiale, c'est un seuil qui est dit de $2 par jour. C'est calculé de manière élaborée, je vous passe le détail. Il n'y a personne qui en France ne vit avec moins de $2 par jour. Donc il n'y a pas de pauvres en France. Je force le trait pour... Non, il n'y a pas de pauvres en France à l'échelle de la mesure internationale. En revanche, si vous prenez d'autres types de mesures qui sont ceux qui sont aujourd'hui d'ailleurs européanisés, bien bureaucratiquement, sont pauvres les personnes qui vivent dans un ménage dont le revenu par unité de consommation est inférieur à 60% de la médiane. Ah, c'est cool. Non, vous avez un seuil de pauvreté qui est proportionnel au niveau des revenus et qui fait qu'aujourd'hui ils sont comptés comme pauvres par l'INSEE pour une personne isolée, une personne qui vit avec moins de 880 euros par mois. Voilà. Hein. Mais tout est affaire là en effet de critères. Et enfin, la première question que vous posiez est une question sympathique, c'est sur les phénomènes démographiques, parce que s'il y a bagarre entre démographes, en revanche sur les définitions et sur les grands phénomènes, il y a à peu près un accord. C'est vrai que par enrichissement des nations se développe ce qui a été baptisé la transition démographique, c'est-à-dire que vous avez une diminution du nombre d'enfants par femme, une réduction de la mortalité infantile. C'est ce qui s'est passé en France 18e, 19e siècle, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays riches actuellement, c'est ce qui se passe dans de nombreux pays encore considérés comme dans la sphère du monde en développement. La fécondité iranienne est la même que la fécondité française actuellement. La fécondité maghrébine est un tout petit peu supérieure, pas maghrébine, j'entends la fécondité dans les pays du Maghreb, est un tout petit peu supérieure à la fécondité française. En revanche, la fécondité en Afrique subsaharienne est encore de 6-7 enfants par femme. Donc, même si cette fécondité devait être divisée par deux sur les 30 prochaines années, nous aurions quand même une augmentation de la population, et c'est ce que montrent les différentes courbes que j'ai faites là. Je vous pose une petite question que j'adore, moi. Vous savez, il y a un truc que tout le monde a à l'esprit depuis ses cours du collège ou de l'école, c'est que pour renouveler les générations, il faut combien d'enfants par femme ?
2,1.
Tous en cœur. Alors comment on calcule ça ?
Prenant le taux de mortalité infantile.
Taux de quoi ? Hein ? Ouais.
C'est un calcul, je crois, assez complexe sur la population féminine en âge de procréer. Enfin, c'est tout un calcul, je sais, très très complexe.
Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que, j'ai des scoops, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Quoi que certains pensent ou écrivent, il y a quand même quelques différences. Et il en est une, c'est que si les femmes sont plus nombreuses dans les derniers âges de la vie, c'est le contraire au tout départ. À la naissance, dans le monde entier, c'est une caractéristique humaine, il y a 105 petits mâles qui naissent pour 100 petites femelles. Donc, pour que 100 femmes donnent naissance à 100 petites femelles, pour qu'elles se reproduisent, il faut qu'elles mettent au monde 205 enfants. Donc pour qu'une femme se reproduise, il faut qu'elle mette au monde 2,05 enfants. Mais pour qu'il y ait reproduction, il faut que la petite femelle arrive à l'âge fécondité possible, c'est-à-dire à 15 ans selon les statistiques qui sont employées. Et donc on corrige ce chiffre de 2,05, qui est une donnée naturelle, de la mortalité infantile, qui est extrêmement faible dans les pays occidentaux. Donc en fait, pour qu'il y ait renouvellement des générations, il faut qu'il y ait 2,06 enfants par femme. Mais dans les pays d'Afrique subsaharienne, il faut encore 3 à 4 enfants par femme en raison des décès considérables, rattachés d'ailleurs maintenant à la problématique de la pandémie du sida. Fin du 19e siècle, en France, le renouvellement des générations, c'était pas à 2,1, hein, c'était à 3-4 aussi. Hein. Mais il y a des vérités fortes assises sur la biologie là-dessus.
Julien, j'ai un souci, c'est que vous ne ratiez pas votre train. Ah oui. On va quand même prendre les trois dernières questions. Il y a trois bras qui sont levés. Monsieur, mais d'abord Anne Bonnefoy. Il y aura ensuite monsieur et monsieur au fond.
Oui, Anne Bonnefoy, Espace Mendès France. Je voulais vous demander comment est-ce que le recensement est possible dans les bidonvilles ? Comment s'effectue-t-il ? Est-ce qu'il y a des difficultés à recenser des personnes qui se sentent exclues et qui ne sont pas socialement concernées, même quelquefois qu'un recensement dans une ville qui n'est pas qui est moyenne, des gens refusent de se faire recenser. Donc, est-ce qu'il y a un recensement dans les bidonvilles ?
Il y a deux choses dans les différents pays qui peuvent être faites, qui sont différemment faites. Il y a d'une part l'état civil local, ou en tout cas ce qui peut servir d'état civil quand il y a des registres de population, c'est qui habite dans telle zone. La zone étant considérée comme un bidonville, on dit que ce sont des habitants de bidonville. Et il y a deuxième chose, les estimations grossières à la louche qui sont faites par les autorités municipales, rendant des chiffres aux autorités nationales, celles-ci donnant ces chiffres à l'échelle internationale. Voilà.
Monsieur au deuxième rang, là, qui a le micro.
Oui, Claude Langlais, Buxerolles. Vous parlez d'augmentation donc des bidonvilles. Comment comprendre ce phénomène ? Est-ce que c'est l'augmentation donc de la pauvreté au niveau mondial des personnes, ou est-ce que c'est l'augmentation aussi du coût d'acquisition de logements à l'intérieur des villes ?
C'est la deuxième solution d'abord. Ouais. C'est clair comme réponse. Pourquoi ? Parce que la pauvreté à ses seuils internationaux de 1 dollar par jour ou 2 dollars par jour régresse en milieu urbain et demeure stable en milieu rural pour le moment. Maintenant, la population des bidonvilles, qui n'est pas synonyme de population pauvre, augmente tout simplement parce que les coûts du foncier et de l'immobilier de qualité, à tout le moins à statut juridique sécurisé, sont très élevés.
Et est-ce que vous avez repéré au niveau mondial des tendances quant aux politiques justement pour créer de l'intégration, pour créer un mélange de populations ?
Alors, au niveau mondial, on pourrait prendre des exemples locaux. Ce qui est assez intéressant, c'est la profonde transformation depuis 2-3 ans de la position onusienne en la matière. La position des agences de développement international, c'était de dire ce qu'il faut, c'est du développement rural pour que les ruraux n'aillent pas s'implanter en ville et n'aillent pas alimenter le flux des bidonvilles. Aujourd'hui, la position, c'est il faut tout faire pour que les gens soient stabilisés juridiquement sur leur territoire, qu'économiquement, ils aient la possibilité d'y développer des entreprises, que les entreprises puissent s'y implanter, etc., etc. Donc, il y a un renouveau intégral de la gouvernance mondiale sur ces questions, qui est surtout de la position de principe, hein, et de la grande déclaration vertueuse, mais un changement radical.
Bonsoir, Maxime Huil, conseiller municipal de la ville de Poitiers. Je vous remercie pour ce brillant exposé. Pour moi, il y a une sorte de grand absent dans votre discours, c'est l'énergie. Effectivement, on est dans l'idée, le concept de durabilité, et effectivement, on a du mal à voir apparaître des caractéristiques, des façons de classer sur les économies d'énergie, quelles sont les villes qui sont rentrées dans des grandes phases d'économie d'énergie, voire d'efficacité énergétique. Alors, est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que c'est Veolia qui en fait nous vend du transport, qui nous vend de l'assainissement, et qui induit des flux, et qui va utiliser ces flux énergétiques, parce que c'est aussi un vendeur d'énergie ? Je vous laisse la réponse. Merci.
Non, sur l'enquête Veolia, l'enquête Ipsos dans ces 14 grandes villes, il y a certainement des sous-entendus Veolia, mais pas celui-là. Non, sur le classement des villes qui peuvent être faites en fonction de leur efficacité énergétique, il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Voilà. En revanche, il y a toujours des exemples qu'on nous met en avant, et là, un petit éco-quartier par-ci, une ville qui prend telle ou telle position ou disposition, etc. etc. Mais les classements, ça peut être qu'ils n'existent pas, hein, mais je les connais pas. Et, mais ils doivent être durs à établir tout de même. Hein, mais bon.
Je vous avais prévenu, hein, Julien Damon, hein, les personnes qui assistent aux séances vivent dans l'agglomération de Poitiers, mais ils ont le regard tourné vers le reste du monde, et votre exposé y a incité, et je trouve que c'est toute la richesse des échanges. Pour ma part, je me permets au nom du public de vous remercier pour la richesse et la qualité, l'attention avec laquelle vous l'avez exposé. Et j'ai envie, en guise de mot de la fin, de livrer une réflexion qui m'est venue en vous écoutant. C'est que on voit, en vous écoutant, tout l'intérêt qu'il y a à se livrer à une comparaison entre les villes. J'ai pas dit benchmarking, hein, j'ai dit de comparaison. Parce que, et c'est un peu au fond l'intervention du mathématicien qui m'inspire cette réflexion, parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation, mais parce que les habitants de ces villes vivent peut-être à Sydney, Hong Kong, Lyon, etc. Mais ils ont l'expérience d'autres villes parce qu'ils ont été amenés à y vivre, à y voyager, etc. Et je crois que les villes en général et les agglomérations, celles de Poitiers en particulier, et c'est en tout cas ce que vous nous invite à faire votre exposé, doivent prendre ça en compte. C'est-à-dire elles ont affaire à des habitants qui ont une expérience, un savoir, de par les comparaisons qu'ils peuvent faire d'une ville à l'autre, à travers encore une fois les séjours qu'ils ont pu y faire, les expériences professionnelles. Et je trouve qu'en filigrane, entre autres choses, c'est ce que invite à faire votre exposé, et c'est en cela que je l'ai trouvé aussi stimulant. Mais je vous vois acquiescer, peut-être que vous vouliez réagir à ça ou...
Dans la théorie urbaine, il y a eu un grand débat au milieu des années 90 quand des philosophes, des anthropologues ont dit la ville est morte.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils entendaient par là? C'est que les pourtours administratifs des villes n'avaient plus grand sens parce que parallèlement, quelque chose se généralisait, et quelque chose qui se généralise, c'est l'urbain. Qu'est-ce que l'urbain en la matière, en l'espèce plutôt? C'est un mode de vie. Et ce mode de vie fait que ces éléments sont présents à Poitiers, comme à Sydney, comme à Johannesburg, en termes de communication, d'aspiration, de ventilation de son temps dans la journée, de rencontres possibles par les réseaux qui nous dépassent et de capacités de déplacement que nous avons tous, certes inégalement, mais auxquelles on peut tous avoir accès et auxquelles on peut tous postuler. Donc, c'est une idée force quand même que de dire que il y a harmonisation du mode de vie qui fait que du fin fond de la campagne française, si je me permets une telle perspective et un tel raccourci jusqu'au l'habitant de l'hypercentre parisien, il y a désormais bien plus de choses qui les font se rejoindre qu'il y a simplement une quinzaine d'années. Et ça, c'est lié à un lieu commun simple, c'est nos superbes TIC qui ne sont plus si nouvelles que cela. Voilà.
Pour poursuivre la réflexion, vous avez l'embarras du choix grâce au Conseil de développement responsable et à l'Espace Mendès France. Vous pouvez réécouter l'intervention, je parle sous le contrôle de Virginie et de Dan Bonnefoy.
Ça serait courageux.
Pour reprendre des points, seulement, alors on n'aura pas forcément les visuels, mais nous réfléchissons à une synthèse peut-être illustrée, nous en reparlerons. Et puis vous avez Vivre en ville, l'ouvrage qui expose encore plus en détail un certain nombre de choses que vous avez exposées, Julien Damon. Sans oublier, j'en terminerai là, la séance du 8 octobre qui permettra de prolonger un certain nombre de réflexions en se centrant sur quelque chose qui a été récurrent mais sur lequel on ne s'est pas forcément attardé, c'est-à-dire les mobilités, la contribution des modes de transport à une ville plus durable. Et sans doute, là je me tourne vers le dernier intervenant, sera-t-il également question des enjeux énergétiques, puisque quand on parle de transport, forcément. Eh bien, merci de votre attention et merci de votre courage d'avoir bravé le soleil.